plaque jusqu'à temps qu'on soit écho. Plongeons de monstre ou plaque. Hey yo, appelle-moi la lionne, c'est chaud.
Écoute locale avec Shiz 94.3.
Tu t'intéresses à la scène musicale actuelle? Tu veux découvrir de nouveaux artistes? Une excellente façon d'y arriver est de plonger dans l'univers d'un nouvel album récemment ajouté sur nos ondes. Shiz te recommande avec son émission Plein son sûr d'écouter un album en entier.
Plein son sûr, tous les vendredis, de 10h à 11h, à Shiz 94.3.
Le soleil et la chaleur du mois de mai en font le moment idéal pour bouger à l'extérieur. Que vous soyez marcheur ou coureur, de type asphalte ou sentier, chez Pradette Sport, nous avons un grand choix de vêtements et de souliers pour la course et la marche, en plus d'une équipe de spécialistes pour vous conseiller. On a même un tapis roulant pour vous permettre d'essayer avant d'acheter. Vous préférez magasiner en ligne? Tout est disponible sur notre site. Pour la course et la marche ce printemps, faites un arrêt chez Pradette Sport, place de la cité. PradetteSport.com.
Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Chérie J'arrive. Certains d'entre vous me reconnaîtront, Alex Tremblay-Lamarche. Je suis chroniqueur depuis déjà quelques années, trop d'années, puisque cela trahit, le temps que je passe à l'université depuis déjà quelques années. Je tiens notamment la chronique Histoire de livres, les jeudis après-midi au cours desquels je vous parle de livres. Donc aujourd'hui, à l'occasion de la fête de la Reine, la fête de Dollar ou de la fête des Patriotes, je vous propose de parler de quelques ouvrages et de parler de cette dite fête, d'où ça vient, depuis quand ça existe, et de vous diffuser un peu de musique, histoire de faire quelques découvertes et de se laisser porter par quelques titres qui parlent de royauté. Vous allez voir, on va avoir du plaisir et on va pouvoir passer la prochaine heure et demie ensemble à parler de cette fête de la reine, fête de dollars et fête des patriotes. Donc, pour commencer, peut-être un petit topo. Ça vient d'où, cette fête-là? Cette fête-là, eh bien, elle est plus ancienne que le Canada, si on fait remonter le Canada à 1867. Et c'est la fête de quelle reine, au fait? Eh bien, c'est la fête de la reine Victoria, puisque la reine Victoria est née un 24 mai 1819, pour être plus précis. Et en 1845, l'Assemblée législative du Canada va voter une loi selon laquelle chaque 24 mai, on va célébrer l'anniversaire de la souveraine. Cette célébration va exister jusqu'à la mort de la reine Victoria. Et à la mort de la reine Victoria, le roi Édouard VII, son fils, va dire, bon, ben, on pourrait garder ça effectivement quand il fait beau, parce que lui, il est né en novembre, puis bon, faire des grands rassemblements festifs à l'extérieur en novembre, c'est moins l'idéal. Et donc, il va se dire, ben moi, la fête du roi, ben, j'ai envie de mettre ça en juin. Et donc, va commencer une période au cours de laquelle, ben, on met ça un peu au moment où on veut, de manière à avoir du beau temps plutôt qu'à avoir l'exactitude de la date d'anniversaire. Et il va falloir effectivement attendre 1957 pour que ça soit définitivement fixé le premier, ben en fait le lundi avant le 25 mai, donc le lundi qui normalement devrait être le plus proche du 24 mai, jour d'anniversaire de la reine Victoria. Et donc ce n'est pas la fête de la reine Élisabeth qu'on célèbre, même si bon c'est quand même la fête du souverain, parce que comme vous l'avez vu, on change d'anniversaire, on a changé effectivement de date tout au long du 20e siècle pour s'adapter aux différents souverains. Petit potin, la reine Élisabeth II célébrait son anniversaire le 21 avril dernier. Et donc, c'est il y a un mois qu'on se réunissait pour célébrer son anniversaire, même si, bon, c'est quand même aujourd'hui que du côté, bon, du Canada anglais, qu'on célèbre la chose. Et on va se pencher un petit peu plus dans les prochaines minutes sur la fête de dollars et la fête des patriotes. Mais pour commencer, j'avais envie de vous parler d'un ouvrage qui parle un petit peu de royauté, puisqu'on est dans la thématique. Et cet ouvrage-là, eh bien, c'est un ouvrage sur un peintre royal qui est venu à Québec au 19e siècle pendant un peu plus d'une vingtaine d'années, si mes souvenirs sont bons. Ce peintre, il avait été formé dans la plus grande académie de peinture du Royaume-Uni. Ses études avaient été payées par le roi. Il avait étudié auprès du portraitiste le plus en vue de l'époque et il débarque à Québec et il va faire sensation. Ce peintre aujourd'hui, il n'est plus très très connu. Il s'appelle Henri-Daniel Tilke, T-H-I-E-L-C-K-E. Ça se prononce apparemment en français Tilke, même si c'est d'origine germanique. Et c'est un peintre qui a été mis en lumière par Patrick White dans un ouvrage récemment paru, Henry Daniel Tilke, La vie d'un peintre royal méconnu. Ça a été publié aux presses de l'Université Laval. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans cet ouvrage? Eh bien, comme je le disais, bon, on trouve le parcours de ce peintre-là. Il est né à Buckingham Palace, donc le palais des souverains britanniques. Et en 1788, il avait des parents qui étaient serviteurs serviteurs du roi George III et du roi George IV. Rapidement, on va se rendre compte que le petit Henry Daniel a beaucoup de talent et on va le faire étudier auprès de l'Académie royale de peinture. Et bon, après un détour par l'Écosse et après avoir peint certains des membres de la famille royale, notamment la duchesse de York, la fille de George III, il va se ramasser à Québec. Et à Québec, il va être accueilli par nul autre que le président du Parlement de l'époque, le célèbre Louis-Joseph Papineau, puisqu'il arrive à Québec en 1831. Donc, à la veille des rébellions des Patriotes. Et Papineau, justement, impressionné par son talent et son statut de portraitiste royal, notamment, on le présente à Québec comme étant le portraitiste de la duchesse d'York. Ça fait quand même très, très, très bien auprès, notamment, de la bonne société qui, il faut se le rappeler, à l'époque, est principalement anglophone à Québec. On est dans les années 1830-1840. C'est le moment où il va avoir le plus d'anglophones à Québec dans son histoire. L'été, on approche des 40-45% avec tous les marins qui débarquent et tous les gens de passage qui viennent du Royaume-Uni et qui repartent lorsque les glaces reviennent. C'est le moment où, le gouverneur qui est à Québec est un Britannique, la citadelle est justement menée par des officiers britanniques. Les principaux hommes d'affaires de Québec sont des barons du bois et des constructeurs de navires qui sont principalement des Britanniques. Et donc, cette bonne société anglophone va trouver que ce cher Tilk est très intéressant et va vouloir se faire croquer le portrait par Tilk. Quelques francophones aussi vont vouloir se faire croquer le portrait par ce dernier. Et Tilk ne va malheureusement pas n'avoir que du succès à Québec, comme le révèle Patrick White dans son ouvrage. Parce que Tilk, il a des studios au Parlement, mais il y a également un autre peintre de l'époque qui a des studios à cet endroit. Enfin, je dis studio, mais je devrais peut-être plutôt dire atelier. C'est le peintre Antoine Plamondon, qui est un peintre très, très connu de la première moitié du 19e siècle. Si vous avez l'occasion d'aller au Musée national des Beaux-Arts du Québec, ou même au Musée national des Beaux-Arts du Canada, vous pourrez assurément voir certaines de ses œuvres. On trouve également plusieurs des œuvres de Plamondon dans nos belles vieilles églises. Donc, ne manquez pas de profiter de la saison estivale pour aller admirer certaines de ses œuvres. Et donc, Plamondon voit d'un très mauvais œil que ce peintre si prestigieux, qui porte le titre de peintre royal, vient de s'installer juste de l'autre côté, dans le même bâtiment, même juste de l'autre côté de son atelier et qu'il lorgne les mêmes clients. Et donc, notre ami Plamondon va se mettre à écrire des articles plutôt méchants dans les journaux sur Tilk. Et c'est ce qui va notamment mettre fin assez abruptement à la carrière de peintre religieux de Tilk, qui, est bien entendu un protestant et les autorités catholiques vont plutôt se rallier du côté de Plamondon, un bon catholique, pour faire ses contrats. N'empêche, Tilk, nous révèle Patrick White dans son ouvrage, va quand même connaître un certain succès auprès des notables anglophones, comme je mentionnais. Le docteur Joseph Morin, qui, malgré son nom, qui peut sembler francophone, est un bon Écossais, qui va notamment être maire de la ville de Québec et qui va faire un legs qui va être à l'origine du fameux Morin Center qu'on connaît aujourd'hui dans le Vieux-Québec, va se faire croquer le portrait par Tilk. Et il y a également un portrait particulièrement connu, qu'on peut toujours admirer au Château Ramsay et dont on peut toujours admirer une copie au Musée national des Beaux-Arts de Tilk qui va être faite à l'époque. Ce portrait-là, c'est un portrait du chef de police de la ville de Québec qui a été fait chef honoraire de la nation des Hurons à Lorette. Et pour l'occasion, Tilk va faire un portrait du chef de police en habit protocolaire. On voit les Hurons sur la toile vêtus de leur haute forme et vêtus effectivement d'habits traditionnels, notamment une ceinture tissée Et bon, également, bon, des médailles, etc., etc. Et cette toile-là va connaître un succès monstre. Elle va être imprimée en lithographie, donc une manière de reproduire les œuvres à l'époque, à non pas 20 000, mais bien 100 000 exemplaires. C'est immense pour l'époque, qui vont toutes être vendues à 5 $ et qu'on retrouve dans des collections un peu partout dans le monde parce que il y a plusieurs musées, effectivement, qui vont en faire l'acquisition dans les années qui suivent. Mais bon, à l'époque, il y a plusieurs riches mécènes qui en font l'acquisition, plusieurs institutions publiques, plusieurs sociétés savantes, parce que, bon, on s'intéresse énormément aux Autochtones en Europe à cette époque, notamment dans une perspective anthropologique. C'est ce qui attire de l'Amérique en grande partie. Et cette toile-là, eh bien, c'est celle que White a choisie pour illustrer la couverture de son livre sur Tilk. Et c'est effectivement une toile qu'on peut toujours voir au Château Ramsay à Montréal. C'est un ouvrage, en fait, que je me voudrais de passer sous silence le fait que Patrick White a pris le relais de David Carrel, qui a été professeur d'histoire de l'art à l'Université Laval, et Danny Fraser, qui a été son étudiante. Ils avaient tous les deux commencé des recherches sur Tilk. Malheureusement, bon, la mort les a emportés avant qu'ils ne terminent ces recherches. Et donc, Patrick White a vraiment poursuivi pendant plus d'une quinzaine même d'années l'édite recherche, la rédaction, pour effectivement que leur travail ne soit pas perdu et pour qu'on puisse redécouvrir Tilk. Donc, c'est vraiment une invitation à redécouvrir ce peintre dont il y a à peu près 80 peintures qui sont toujours connues à l'heure actuelle. Et si vous voulez en apprendre plus, eh bien, je vous invite soit à vous procurer l'ouvrage, soit à fouiller un petit peu sur le net sur le peintre. Ça va peut-être vous donner envie, effectivement, de vous plonger également dans l'ouvrage. Et bien sûr, à fouiller où on peut trouver ces œuvres. On peut les trouver, bien entendu, au Musée national des Beaux-Arts, mais on peut également en trouver dans plusieurs des autres petits musées de la ville de Québec. Donc, ne manquez pas de jeter un œil à son œuvre. Et pour l'heure, je vous propose qu'on s'en aille en musique avec une chanson d'une chanteuse que j'apprécie particulièrement, une Belge qui est récemment passée au Québec, malheureusement sans offrir de date de spectacle parce qu'elle était seulement de passage à Star Academy. Elle est repartie en offrant plusieurs entrevues aux médias, disant qu'elle comptait bien entendu revenir au Québec. Cette chanteuse, vous l'avez peut-être reconnue, c'est Angèle, la célèbre chanteuse belge qui a le vent dans les voiles actuellement. Et elle est notamment l'interprète d'une chanson s'appelant Ta Reine, que je trouvais particulièrement à propos pour débuter l'émission. Et donc, on s'en va en musique avec Ta Reine d'Angèle.
Si seulement elle savait comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Mais laisse le temps, il pourrait vous donner une chance de vous retrouver. Il lui faudra du temps, c'est sûr, pour oublier tous ses préjugés. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi le roi, tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Si seulement elle savait comment tu l'envisageais, même si t'es une fille. Si seulement elle savait comment tu pourrais l'aimer tellement plus que lui. Mais peut-être qu'un jour elle verra. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir.
Chérie,
j'arrive.
Le retour culturel.
Toujours sur les ondes de Chérie, j'arrive pour ce spécial fête de la reine de dollars et des patriotes en compagnie d'Alex Tremblay-Lamarche, chroniqueur à Chérie, j'arrive et votre animateur du jour. C'était ta reine d'Angèle, chanteuse belge que j'apprécie particulièrement. On discutait juste avant la pause musicale du peintre Henri Daniel Tilke, peintre royal et également des origines de la fête de la reine. Maintenant, j'ai envie de vous entraîner du côté des origines de la fête de dollars, dollars des ormeaux, de son vrai nom. Donc, je me permets de vous le présenter un petit peu avant qu'on poursuive. Dollars des ormeaux, en fait, c'est un héros de la Nouvelle-France qui fait face à une attaque, justement, d'Autochtones et qui, pour défendre le phare dans lequel il était, la barricade derrière la il était, il va lancer un tonneau de poudre pour effectivement, dans un geste désespéré, tonneau de poudre qui finalement va exploser de son côté et malheureusement effectivement, le tuer en héros dans la défense de la Nouvelle-France en danger face à la menace autochtone. Donc on est dans un récit de la première moitié du 20e siècle dans lequel, on est face à cette glorieuse Nouvelle-France dont la croissance avait été arrêtée par la terrible conquête britannique. On est dans une époque où, l'Autochtone, qu'on appelle à l'époque même l'Indien, est jugé comme le méchant, celui qui empêche effectivement le colon français de particulièrement s'épanouir sur un territoire qui, faut pas l'oublier, était quand même le territoire de ces Autochtones. La figure, effectivement, de Dollars des Ormeaux va tranquillement s'imposer comme une figure particulièrement populaire, notamment grâce au chanoine Lionel Groulx, qui est un des premiers historiens, un des premiers. Il y en a quand même eu quelques autres avant, mais un des principaux historiens de la première moitié du 20e siècle. Et c'est notamment grâce aux efforts qu'il va faire pour faire connaître le personnage et à cette volonté que les Canadiens français ont à l'époque de commencer à se distancer un petit peu des symboles impériaux britanniques. Faut dire que les Canadiens français se sentent différents des Canadiens anglais, se sentent différents des Britanniques et ils ont une volonté de tranquillement s'émanciper de ça, de s'émanciper de ces symboles. C'est ce qui va les amener notamment à avoir leur propre drapeau, la fleur de l'Isée sous Maurice Duplessis en 48, si je ne m'abuse, je me trompe peut-être, mais à peu près à cette époque-là. C'est également ce qui va amener les Canadiens français à vouloir se doter d'une autonomie provinciale de plus en plus forte sous l'impulsion de Maurice Duplessis. Mais dès les années précédentes, il va également y avoir plusieurs notables qui vont tenter de franciser certains noms de lieux, tenter effectivement de ramener les Canadiens français un petit peu au pouvoir. Et cette volonté-là se vit dans ce désir d'éliminer la famille fête de la reine et de la remplacer par la fête de Dollar, un héros de la Nouvelle-France. Et donc, ce n'est donc pas la fête du dollar, la devise monétaire, mais c'est bien la fête de Dollar, Dollar étant le prénom de Dollar Desormeaux. Et ça m'amène à vous parler du prochain ouvrage, un ouvrage qui traite un petit peu de cette question-là, mais qui traite également, qui en traite de manière beaucoup plus large. C'est un ouvrage du sociologue Alexis Tétrault, qui s'intitule « La nation qui n'allait pas de soi, la mythologie politique de la vulnérabilité du Québec ». Ça a été publié chez VLB Éditeur. Et donc, ça nous parle de cette mythologie politique de la vulnérabilité, notamment justement, bon, cette Nouvelle-France dont je parlais, qui se retrouve vulnérable face aux méchants Iroquois. Donc, on est toujours dans les perspectives de l'époque, là, et qui doit être défendue par le vaillant Dollar Desormeaux. Et donc, il y a vraiment toujours cette idée-là que les Canadiens français sont un peuple en danger. Et Alexis Tétrault soutient que tant si longtemps qu'on s'est considéré comme étant en danger, ça nous a poussé à faire des grandes choses et ça nous a poussé à nous affirmer sur le plan politique. À partir du moment où ce que on cesse de se sentir en danger comme groupe canadien-français ou comme groupe francophone en Amérique du Nord, eh bien, ça nous amène à tranquillement laisser de manière insidieuse les bases, effectivement, de cette identité-là s'affaiblir. C'est une thèse qui est assez intéressante et qui va dans le sens de ce que la plupart des travaux en histoire ont tranquillement construit au cours des dernières décennies. Il commence son ouvrage avec la crainte de la disparition qui, bon, arrive dans les années 1840 avec Garneau. Donc, ce qu'il appelle le mythe fondateur. À cette époque-là, au lendemain des rébellions des Patriotes, il y a le célèbre Lord Durham qui va dire que les Canadiens français sont un peuple sans histoire et sans littérature. Ça va piquer au vif deux groupes. D'abord, François-Xavier Garneau, qui n'est pas un groupe, mais plutôt un individu, qui va se dire « C'est pas vrai qu'on est un peuple sans histoire, c'est juste qu'à pas été écrite encore et qui va se mettre à écrire sa monumentale histoire du Canada. Et ça va également piquer un autre groupe un groupe effectivement d'amateurs de littérature qui vont dire c'est pas vrai qu'on n'a pas de littérature, c'est juste qu'elle n'a pas encore été écrite et qui, bon, vont la publier notamment dans des journaux de Québec, entre autres, notamment autour de l'abbé Casgrain. Ça va également mener sur le plan politique un certain Honoré Mercier qui va être premier ministre autour des années 1880 à vouloir effectivement montrer que le Québec n'est pas cette nation ratatinée, qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas effectivement de volonté. Il va y avoir cette volonté-là effectivement de coloniser le territoire, de l'occuper davantage. Mercier va notamment s'illustrer par des terres données aux colons qui ont de nombreux enfants, cette volonté-là également d'appeler à une unité nationale et, bon, à rendre le Québec un peu plus fort. Et, ben, encore une fois, Mercier, il le fait en réaction, effectivement, à une menace, notamment à la mort de Louis Riel. C'est ce qui va le porter au pouvoir. Lorsque Louis Riel, métis dans l'Ouest, canadien, il descend des Autochtones de l'Ouest et également des Canadiens français, décide de... épandu parce qu'il est jugé pour sédition, alors que Louis Riel, tout ce qu'il voulait au final, c'était une certaine autonomie pour lui et les siens dans l'Ouest. Eh bien, Honoré Mercier est piqué au vif et, les Canadiens français le sont également et c'est ce qui va les amener, effectivement, à se développer. Même chose lorsqu'on vient à notre abbé Groulx dont je parlais tout à l'heure, face, effectivement, à la montée des anglophones au Québec et à leur poids économique. Eh bien, on va développer la fête de Dollar avec cette idéologie-là de la vulnérabilité, de la survivance. Mais bon, lorsqu'on célèbre la fête de Dollar, on ne célèbre plus effectivement, on ne célèbre pas. On ne dénonce plus le fait d'être menacé par l'Autochtone, comme c'était le cas à l'époque de Dollar, mais plutôt le fait d'être menacé par l'encerclement anglo-saxon. Et donc, c'est directement ça qu'on essaye de dénoncer et qu'on veut mettre de l'avant par cette fête-là. L'infériorité économique des Canadiens français à l'époque, donc leur vulnérabilité encore une fois, va les amener à vouloir faire un État français, à créer l'ordre de Jacques Cartier, qui est un ordre secret qui vise à mettre les Canadiens français dans des positions de force, à franciser des noms dans l'espace public. T'sais, le Bois de Coulonges qu'on connaît bien aujourd'hui à Québec, et si vous le connaissez pas, allez y faire un tour parce que c'est vraiment un très bel endroit. Il était jadis connu sous le nom de Spencer Wood et c'est notamment grâce à un notable de Québec, Clément T. Dussault, que le nom va être changé pour Bois de Coulonges, un nom qui ramenait à la Nouvelle-France. L'ouvrage d'Alexis Tétrault continue comme ça. Je pourrais continuer pendant longtemps, mais je vois que le temps file, donc je vais m'en tenir peut-être un petit peu aux années 50, 60, puis au début de l'indépendance pour conclure. Mais ce qu'on voit encore une fois, c'est que à partir effectivement du milieu du 20e siècle, il va y avoir des historiens, des gens des sciences sociales, notamment Maurice Séguin, Michel Brunet, qui vont se mettre à étudier le cas du Québec, ben, en fait du Canada français à l'époque, il faudrait plutôt dire, et ils vont en arriver à la conclusion que le nombre est problématique et que ben le faible nombre de Canadiens français dans ce territoire menace effectivement leur survie et que pour arriver effectivement à mieux contrôler les leviers qui permettraient de protéger la culture de ce groupe, eh bien, il faudrait tranquillement cheminer vers un État français. Donc, encore une fois, l'idée de vulnérabilité. Mais ce qui se passe à l'époque, justement, c'est que, alors que Gros pensait que l'économie, la vulnérabilité, l'infériorité économique était réversible en y travaillant, l'École de Montréal, autour de Maurice Séguin et Michel Brunet, eux autres, ils pensent que non, il faut aller tranquillement vers soit l'assimilation et s'y résigner ou soit aller vers l'indépendance. Et c'est tranquillement comme ça que va commencer à cheminer cette idée. La crainte, effectivement, de disparaître amène la volonté d'indépendance. Même chose pour la Charte de la langue française. Le fait, effectivement, de voir le Canada français du reste du Canada s'être tranquillement éteint. Alexis Tétrault, un sous-titre particulièrement éloquent, Feu le Canada français, et le fait de voir effectivement la crise linguistique à Saint-Léonard avec les Italiens dans les années 1960 va amener les Québécois à vouloir protéger leur langue. Et à la fin, il conclut en disant maintenant qu'on se sent plus que jamais en confiance que les Québécois se comportent comme s'ils avaient fait l'indépendance sans la faire et ils ont l'impression que leur langue est en sécurité, leur culture est en sécurité. Il dit c'est maintenant qu'on se sent plus vulnérable qu'on l'est plus que jamais. Conclusion qui était vraie il y a quelques années, mais qui, l'est peut-être un petit peu moins actuellement, puisque, on voit la volonté qu'a la CAQ et une bonne partie de l'opinion publique, notamment, le réseau collégial de protéger la langue française en étendant la loi 101 au cégep. Mais, encore une fois, qu'est-ce qui nous amène à ça? C'est ce sentiment de vulnérabilité, notamment, l'ouvrage de Frédéric Lacroix qui a sonné l'alarme sur l'état du français au Québec a ramené effectivement les Québécois à ce sentiment de vulnérabilité linguistique et à une volonté de protéger. Donc, effectivement, même si on n'est plus totalement dans ce sentiment justement que, il ne faut pas, on n'a rien à craindre, on n'a pas besoin de se protéger, c'est à ce moment-là qu'il y a des pertes. La thèse, effectivement, défendue par Alexis Tétrault s'avère plus que jamais vraie et on est simplement, effectivement, dans un retour à cette idée-là, justement, de mythologie politique de la vulnérabilité qui nous amène à nous affirmer en vue de perdurer. Sur ce, je vous propose qu'on s'en aille en publicité. Ah oui, je rappelle le titre de l'ouvrage, pardon. La nation qui n'allait pas de soi, la mythologie politique de la vulnérabilité du Québec d'Alexis Tétrault, jeune sociologue à surveiller. Et c'est publié chez VLB. Sur ce, on s'en va en publicité. Et après, on s'en va en musique avec une autre chanson royale. Cette fois-ci, on va aller vers un groupe, un jeune groupe de Nantes, Vidéoclub qui nous offre Roi. Mais pour l'heure, on s'en va d'abord en publicité. Oui, c'est bon.
Ne manquez pas Liv Volbeck en spectacle à Québec le 15 juin prochain à l'Impérial Bell. Un concert incroyable à ne pas manquer. Le nouvel EP New Waves est disponible partout. Les Volbec en concert à l'Impérial le 15 juin prochain. Une présentation de Chiz 94.3, Unit Sounds et Secret City Records.
Passe d'abord, c'est bien fait. Le tir est là-bas.
Vos Remparts sont en demi-finale des séries éliminatoires de la Coupe du Président. Pour l'occasion, les hommes de Patrick Roy affronteront les Cataractes de Shawinigan ce mercredi 19h en direct du Centre Vidéotron. Ne manquez pas l'avant-match en compagnie de Rick Loutier dès 18h45. La série Remparts contre Cataractes, seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Je te cherche dans mes songes, je te traque dans mes rêves, à l'aube ou dans l'ombre, rire en veine sur tes lèvres, écorchant les abîmes de mon cœur écarlate. Tu n'es que le point fixe de mes songes disparates. Aime-moi dans la neige, aime-moi sous le soleil, aime-moi la peau beige dans les fleurs de vermeil. Je vois des gens qui cornuent, je vois des gens qui me sourient, mais moi je plane dans la rue, dans tes yeux sous la pluie. Et je reste l'esprit de tes lointains souvenirs, dans mes songes ensevelis, tes larmes, tes rires. Tu es ma femme iconique, tu es mon rubis saphir, je suis ta rose lyrique, je suis ces gens qui t'admirent.
Sous le soleil, aime-moi la peau beige dans les fleurs de vermeil. Aime-moi dans la neige, aime-moi sous le soleil. Aime-moi la peau beige dans les fleurs de vermeil. Des gens durant, fuyant la nuit, je parcours ta peau. Je parcours la vie, la fumée soive de ta bouche. Fil s'échappe de jour en jour. Quand je râle dans la nuit, je suis seul sous mes vices. Je t'aime quand il pleut, tu es la nymphe de mes voeux. Je t'embrasse dans mes rêves et je t'aime au bout des lèvres. Je déteste le goût mièvre de ma bouche, de leur rêve. Dans la nuit, tu me regardes sous les nuages, je divague. Avec toi, je suis roi, je suis roi. Toi, je suis roi, toi, je suis roi.
Bonjour, ici Navet Confi et vous écoutez Chiz.
Toujours sur les ondes de Chiz 94.3, comme vient de vous le rappeler nul autre que Navet Confi. Il est 16h37 et vous êtes toujours en compagnie d'Alex Tremblay-Lamarche, chroniqueur à Chiz 94.3 et animateur de 3600 secondes d'histoire pour une émission spéciale de Chérie J'arrive, tout en histoire et en littérature ainsi qu'en musique, sur la fête de la reine, la fête de Dollar et la fête des Patriotes. On a parlé juste avant avant la pause musicale de Dollars des Ormeaux et de la volonté, effectivement, des autorités religieuses, principalement dans les années 1900-1950, de mettre de l'avant ce cher dollar plutôt que la reine Victoria. Et maintenant, j'ai envie de vous entraîner un petit peu ailleurs, du côté de la fête nationale des Patriotes. D'où vient-elle, la fête nationale des Patriotes? Eh bien, elle vient de Bernard Landry. C'est le 22 novembre 2002 que la fête des... la journée nationale des Patriotes, plutôt, devrais-je dire, va devenir journée fériée et va remplacer la fête de Dollars et la fête des de la Reine. Cette journée-là vise à souligner l'importance de la lutte des patriotes pour la reconnaissance de leur nation. Et donc, elle va correspondre effectivement à une volonté qu'a le gouvernement Landry à l'époque de mettre de l'avant un petit peu la citoyenneté québécoise, canadienne, enfin plutôt québécoise, hein. On est du côté du gouvernement de Bernard Landry, mais il faut se replonger dans l'époque, il y a vraiment une volonté de mettre de l'avant la démocratie, de mettre de l'avant ces luttes patriotes, et il y a une volonté aussi de tranquillement, peut-être mettre de côté Dollars, il y a plusieurs études qui ont révélé que c'est un trafiquant, un contrebandier, que un personnage aussi qui tapait sur les Premières Nations. Ça passait peut-être moins bien que ça passait dans la première moitié du 20e siècle. Et donc, le mythe de Dollars avait vieilli. Au même titre que le mythe de la reine, peut-être pas tant de mythes, parce que la reine, il y a des mythes autour de la reine assurément, mais plutôt l'apologie de la figure royale avait pâli, le mythe de Dollars s'était estompé et donc il est remplacé par une nouvelle volonté. Mais comme souvent ça fait lorsque on tente d'imposer des nouvelles choses dans la mémoire, ça prend du temps avant que ça s'implante et il va y avoir une superposition de ces différentes allégories mémorielles. On a juste à penser au changement qu'il peut avoir dans la toponymie. Il y a encore des gens qui disent commission des liqueurs pour la SAQ ou qui disent Saint-Cyril pour le boulevard René-Lévesque. Ça, c'est déjà un petit peu plus vieux. Mais il y a encore des gens, moi le premier, qui a tendance à dire des fois l'autoroute du Vallon plutôt que l'autoroute Robert Bourassa. Et même chose pour d'autres changements dans la toponymie et aussi dans la mythologie nationale, si je peux m'exprimer ainsi. L'ouvrage dont j'ai envie de vous parler à l'instant, traite un peu de ces questions. Il s'intitule « Je me souviens, j'imagine, essai historique et littéraire sur la culture québécoise ». C'est un ouvrage collectif sous la direction d'Anne Comartin, Julien Goyette, Karine Hébert et Martine-Emmanuelle Lapointe qui a été publié aux presses de l'Université de Montréal. Un ouvrage qui traite effectivement des mythes, emblèmes, lieux communs de l'imaginaire collectif québécois. On pense notamment au hockey, à la figure de l'anglais méchant, à cette idée que le Québec serait un matriarcat, à l'opposition entre le bon français et le joual. Est-ce que les Québécois parlent un bon français? À la place de l'Église dans la mémoire collective, dans l'identité collective. À des choses un petit peu plus pointues des fois, comme la rivalité Québec-Montréal. Il y a toujours cette image-là, effectivement, qu'on a en tête. Et donc, c'est un ouvrage qui se penche sur ces mythes-là, sur un petit peu la mémoire collective québécoise et comment certaines choses sont devenues des symboles, comment d'autres se sont tranquillement effacées au profit d'autres. Un ouvrage divisé en quatre parties. La première s'intéresse aux espaces de la culture. Elle s'intéresse notamment à l'hiver, la colonisation. Elle s'intéresse aussi, comme je mentionnais, à la rivalité Québec-Montréal. Ça, c'est un texte que, je ne vous le cacherai pas, j'ai particulièrement apprécié. Il est du chercheur Harold Bérubé, professeur à l'Université de Sherbrooke, que j'aime beaucoup, qui vient notamment de publier un petit ouvrage sur l'histoire des villes nord-américaines chez Septentrion, que je souligne au passage. Et donc, Harold Bérubé, dans ce chapitre, bon, nous parle de la rivalité Québec-Montréal. Il en fait l'histoire, il la remet également en contexte. C'est pas quelque chose qui est unique à Québec puis Montréal, là, c'est une rivalité interurbaine. Glasgow et Édimbourg, par exemple, en Écosse. Glasgow étant, bon, la capitale économique, ben, enfin, non, je dirais plutôt la métropole économique, alors que Édimbourg est, bon, la belle vieille ville qui est la capitale politique, ben, ça vous fait penser à rien. T'sais. D'un côté, on a la capitale politique avec son château en Haute-Ville, Québec, et de l'autre côté, la métropole économique Montréal. Même chose de ce côté-là. Il remonte effectivement la compétition. Faut le voir, dès le début du 19e, il va y avoir une volonté effectivement de Montréal de s'émanciper, de dépasser Québec. On va creuser effectivement le fleuve pour que les grands bateaux puissent s'y rendre et ne soient plus contraints de s'arrêter à Québec. On va également relier Montréal au reste du continent par un pont. Le fameux pont Victoria au milieu du 19e siècle. Dorénavant, Montréal est relié 365 jours par année au reste du monde via l'océan Atlantique, alors que Québec, elle, est prise dans les glaces lorsque l'automne s'en vient et doit attendre au printemps pour communiquer avec le reste du monde, tandis que, bon, Montréal, via le pont Victoria qui traverse en train vers les États-Unis et qui donne accès au port américain, est relié au reste du monde. Donc, on voit à partir de cette époque-là que tranquillement, ben Montréal va prendre le devant, va s'industrialiser davantage. Et il va y avoir deux images qui vont se développer, comme le révèle Harold de Bérubé. L'image, bon, du cosmopolitisme de la métropole. Montréal, c'est la ville où les gens sont ouverts sur le monde, la ville de la diversité, mais aussi la ville des gens qui sont un petit peu centrés sur eux-mêmes puis qui se pensent meilleurs que les autres. Alors que Québec va tranquillement devenir une ville provinciale, une ville peut-être... plus pur sur le plan, bon, canadien-français. Bon, là, je mets des gros guillemets parce que, bon, on se replace dans la perspective de l'époque avec tous ces notables canadiens français qui ont cette mentalité. Mais une ville un petit peu qu'on va juger arriérée, une ville qu'on va juger plus conservatrice. Harold de Bérubé termine notamment son texte par une citation d'Alfred Desrochers que je trouve particulièrement savoureuse et qui résume effectivement un petit peu son propos, qui se lit comme suit. Il est stipulé tacitement que dans la province de Québec, il existe deux villes. Dans l'une vivent les nombris d'univers, c'est Montréal. Dans l'autre, les imbéciles, c'est Québec. Le reste, c'est la campagne. Et donc, Harold de Bérubé, c'est ça, poursuit en disant, bon, d'une certaine façon, Desrochers résume assez élégamment ma thèse. L'identité collective, qu'elle soit nationale ou locale, repose sur l'altérité qui permet de déceler, distinguer les traits qui sont propres à une communauté. Bien entendu, dans les deux cas, bon, c'est l'image qu'on veut donner à l'autre qui s'impose. Mais c'est particulièrement intéressant et ça nous permet de mieux comprendre comment ces images-là se sont formées et comment tranquillement cette caricature du Montréalais a commencé à exister, comment cette caricature du Québécois, et quand je dis Québécois ici, je parle de la personne de la ville de Québec, a commencé à exister. D'autres textes dans cette section, notamment de Benoît Mélenchon sur le Forum de Montréal, tu sais, on le sait, la mythologie du hockey au Québec, c'est particulièrement important. Il en parle notamment, bon, avec les émeutes du Forum, les joueurs canadiens, français, l'importance de Maurice Richard et des films aussi, du film principalement, qui va consolider ça. Deuxième partie sur laquelle je passe plus rapidement, les moments forts de notre histoire, la conquête, les patriotes, la mémoire de la crise d'octobre, la grande noirceur, la revanche des berceaux. Troisième partie, les figures. Ces figures-là de la mythologie nationale, notamment, bon, l'idée que les Québécois seraient des porteurs d'eau, l'idée que l'anglais est un antagoniste. Ça, c'est assez intéressant. C'est un texte de... j'ai un petit blanc. Oui, Martine-Emmanuelle Lapointe, qui est l'une des directrices de l'ouvrage Pardon. Et bon, elle nous parle effectivement de cette majorité minoritaire de la deuxième moitié du 18e et de la première moitié du 19e siècle, où effectivement, un très petit groupe d'anglo-protestants est minoritaire, mais est aux commandes du Québec dans une grande mesure. Puis, de comment tranquillement la situation de la minorité majoritaire et de la majorité minoritaire, bon, qui évolue dans un rapport de domination, va évoluer vers, bon, certes, vers deux solitudes. Certes, il va rester un rapport de domination, mais il va avoir cette volonté-là, effectivement, d'habiter parallèlement. Elle nous offre également quelques savoureuses citations de gens qui dénonçaient l'anglais à l'époque. Et elle part de Jules-Paul Tardivelle pour aller jusqu'à Christian Rioux, toujours chroniqueur à l'heure actuelle pour Le Devoir. Et je me permets en fait de vous lire une petite citation de Jules-Paul Tardivelle que je trouvais sympathique. Ça va comme suit. « Le principal danger auquel notre langue est exposée provient de notre contact avec les Anglais. Je ne fais pas allusion à la manie qu'ont certains Canadiens de parler l'anglais à tout propos et hors de propos. Je veux signaler une tendance inconsciente à adopter des tournures étrangères au génie de notre langue, des expressions et des mots impropres. Je veux parler des anglicismes. » Et donc, l'ennemi n'est pas tant l'anglais en tant que tel lui-même. L'ennemi est plutôt l'anglicisme. D'ailleurs, ben, Jules-Paul Tardivelle va publier un ouvrage qui s'appelle « L'anglicisme, voilà l'ennemi ». C'est assez intéressant. Ça permet effectivement de relativiser des choses, de voir effectivement comment c'est pas tant effectivement la personne britannique qui fait part, mais plutôt l'anglicisation qui fait part. Également un texte sur les maudits français, je cite le titre du texte, qui est assez sympathique et qui examine notre rapport, effectivement, bon, à la France et aux Français. Autre texte que j'ai trouvé particulièrement intéressant, celui sur le mythe du matriarcat de Karine Hébert. Il y a cette idée au Québec qu'on serait dans une société matriarcale, qu'au Québec, depuis bon, les débuts de la Nouvelle-France, ça serait bon, les femmes qui auraient le haut du pavé et que, bon, oui, effectivement, sur la scène politique, ce sont des hommes qui ont été élus jusque dans les années 1900, qui ont été élus exclusivement jusque dans les années 1960 et qui ont été élus principalement jusqu'à aujourd'hui, mais que dans les chaumières, ça serait les femmes qui mèneraient. Karine Hébert déconstruit ce mythe en partant effectivement de la Nouvelle-France. France, qui était effectivement un espace colonial qui donnait plus de possibilités aux femmes, mais qui faut quand même effectivement nuancer. Elle met notamment de l'avant que c'est parce que nos premiers historiens ont en grande partie été des membres du clergé et que pour eux, ben, des membres du clergé de la fin du 19e et de la première moitié du 20e, donc bien ancrés dans cette époque des sphères séparées où la femme est à la maison et l'homme travaille, et le fait pour eux de voir des femmes qui occupe une place dans l'espace public était un peu surprenant, donc il le relevait davantage et il le relevait effectivement avec cette idée d'anormalité, si je peux m'exprimer ainsi. Et tranquillement, les choses vont évoluer, notamment bon dans les années 1830 avec les rébellions des patriotes où bon il faut rejoindre le rang et si la femme tient tête, ben ça c'est pas une bonne chose. Mais c'est ça, ce qui est surtout intéressant, c'est que à partir des années 1980, notamment sous l'influence du mouvement féministe, il va y avoir plusieurs historiennes, notamment bon la grande Micheline Dumont, pour qui j'ai beaucoup de respect, et les autres historiennes derrière le collectif Clio qui vont rédiger la première histoire des femmes au Québec. Et ils vont s'intéresser à ces femmes de pouvoir parce qu'elles recherchaient effectivement bon les formes effectivement d'exercice du pouvoir par les femmes dans l'histoire depuis les débuts, et elles vont arriver effectivement à nuancer le tout. Oui, l'espace colonial donne plusieurs possibilités aux femmes qu'elles n'auraient peut-être pas dans un contexte métropolitain comme en France ou au Royaume-Uni, mais il ne faut pas parler de matriarcat pour autant. Donc, texte assez intéressant. Si on vous ressort le mythe du matriarcat québécois, allez le lire, puis ça va vous permettre effectivement d'avoir de quoi répondre. Et dernière section de l'ouvrage, quoi? Les objets. Donc, le français, la religion, les romans. On se penche notamment sur le roman Jean Rivard, Le Défricheur, qui est célébré à Plessisville, et sur le fameux roman Maria Chapdelaine de Louis Aymon, qui a fait l'objet d'un film récemment. et qui va devenir effectivement un moteur de développement économique pour le lac Saint-Jean, avec un musée Louis-Aymon, un chocolat Maria Chapdelaine, des régions administratives, une société d'histoire qui vont être nommées en l'honneur de ce personnage, puis bon, toute une mythologie, des films, etc. Glisse également un petit mot sur Un homme et son péché, Séraphin. Bon, il y a eu quand même une série guidée récemment, pas une série guidée, voyons, une série télévisée, qu'est-ce que je dis là, sur la question. Donc, plusieurs choses intéressantes. Si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus un petit peu sur nos mythes, emblèmes, lieux communs de l'imaginaire collectif québécois, je vous invite à vous plonger dans Je me souviens, j'imagine, essai historique et littéraire sur la culture québécoise. C'est un ouvrage collectif sous la direction d'Anne Comartin, Julien Goyette, Karine Hébert et Martine-Emmanuelle Lapointe. Comme c'est un ouvrage collectif, ça a l'avantage de permettre de lire les textes dans l'ordre que vous voulez, en fonction des intérêts que vous avez. Donc, si seulement certains pans qui vous intéressent, ben, rien ne vous oblige à lire l'entièreté de l'ouvrage. Mais je vous invite quand même effectivement, bon, à l'éplucher d'un couvert à l'autre, effectivement, pour avoir une meilleure idée de ces mythes qui structurent notre identité collective. Sur ce, on s'en va en musique avec une chanson du groupe Loco Locas, La censure pour l'échafaud, qui fait un clin d'œil, effectivement, à l'abbé Lionel Groulx, qui parle de notre rapport à l'histoire, aux mythes et aux emblèmes.
Que je reste à l'affût des plus mystérieux, de mes funestes et fumeuses affinités avec les régimes oni. J'affûte mes flûtes, puis je réfute le vous-fûte ceci. Me méfie des vous-fites-filles, des juifs puis des fifici, de tout ce qui se différencie, que s'il eût fallu qu'il y eût des fours ici, vous en auriez fait pour sûr du poulet frit. En fait, vous êtes tous autant que vous êtes ici, des fous, des groupies, de l'abbé groupie. Joey Roussy, on les écoute, il faut autodaffer tout ce qui nous fait honte à leurs yeux de pontifs qui réclament sacrifice sur un hôtel apocryphe. L'holocauste de nos désirs travestis en vice, centaure en atavisme, vendre place et brûler vif. Tu es dans l'œuf, l'avenir qui s'éniche. Je vérifie, je lipie, je trouve que j'ai de l'argent mystifie. On nous mystifie, à la fin des années folles, l'hystérie fut fort bien répartie.
Merci.
Mais qui m'a dit qu'ignorance et amnésie d'une carte blanche de hypocrisie? Ainsi, si Céline est antisémite, qui cite? On est franco, ipso facto, on se mérite le titre d'estis facho. Tout ça mérite, surtout qu'on oublie vite qu'en Ontario, les plages furent interdites aux juifs, aux chiens,
puis aux nègres.
Dans leur bitexto, si je dis c'est que je suis moi-même un nègre, mais blanchi à la chaud, tandis que McGill est contingenté au bachot. On faisait du textile avec les cheveux des juifs à Dacho. Point matériau, comme les arbres de la Dai Shoah. C'est ça la Shoah, chaud, so watch out avec les mots. Tu me laisses pas d'autre choix, toi, d'envoyer la censure pour l'échafaud. De reproche louche dès que je me rapproche des racines de ma souche, puis cache up sur la lâcheté de mon
cache-cache
pendant que l'axe inonde le monde.
Bon, bah,
sache que le père de mon père a mis son gun au service de l'hexagone, fier comme un coq.
Je rock,
puis sa gang des dames que noche. On pouvait s'y fier pour des nazis, fier le rock. En Normandie, il y avait plus de franco que de québécois qui habillaient franco, mais on n'était pas pur pour autant, un peu sans peau. Simulé, saoulé, soutane, charlatane, saoulé par la face cachée du chanoine. Zip, on n'a pas été vite, vite à voir ma fumée d'Auschwitz. Maxima,
culpa
pour tous les potes qui portent la kiba. Quant à toi, caca Canada, pour vendeur de francophones,
meurtrier de
métis, accord les excuses à la commission des droits de la personne. Personne n'aime se faire traiter de bacho. Fait que la prochaine fois que l'envie de prendre, c'est tes chevaux.
Watch out avec les mots.
Sinon, presto, je te renvoie la censure pour l'échafaud.
Histoire
d'honneur, mémoire pour eux. Nous sommes même plus nous, mais nous, 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 nous
pression, mort à l'hameçon. S'empêche en pêchant, paraît que cette contrition se flagelle. La ballot de Javel, une tâche originelle, pas mal imaginaire. On fouille dans nos selles, on cherche la vache folle. On se fourre le doigt dans l'œil jusqu'au coude, jusqu'à l'aisselle. Quels imbéciles, on ne voit plus les parpelés qui auréolent nos cervelles serviles. Tandis qu'on dit anormal, Esther, Esther, on sert des délétères, thèse d'Esther de Lille. Pis des délires de Mordecai, Richler, pour nous garder des terribles totalitaires. Nous n'osons même plus nous nommer, nous-mêmes nous nous nions. Nous ne sommes plus que pour la honte, la peur, la truie nous coupe les couilles et brouille les communications. Le premier qui se mouille ici risque l'ex communication. Sans compte, colonisation. Quand un chef piquiste effrayé de fichiers fascistes sombre dans la délation, devient mouchard en voulant faire le pot. Quand un premier ministre vire capot, il était une fois la femme chaud. C'est sûr, ça fait mal, oui, mais pas me chaud. Quand je renvoie la censure pour les chapeaux.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 mètres, la coupe vanille au bout du pied.
Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Bonjour, ici Cœur de Pirate et vous écoutez Chéri J'arrive sur Chiz.
Toujours sur les ondes de Chiz 94.3, comme vient de nous le rappeler Cœur de Pirate, il est 16h59 et vous êtes en compagnie d'Alex Tremblay-Lamarche en remplacement de Félix Duchesne pour cette émission de Chéri J'arrive, au cours de laquelle on parle de la fête de la Reine, de la fête de Dollar et de la fête des Patriotes dans une perspective livresque et musicale, bien entendu, tout ça en parlant un petit peu d'histoire, puisque ceux qui me connaissent le savent, je suis un féru d'histoire et historien de formation. Également, en train de travailler sur une thèse qui n'en finit plus de finir. Mais tout ça pour nous amener à notre prochain ouvrage qui parle de l'enseignement de l'histoire, puisque comme on l'a vu avant la pause musicale et publicitaire, l'histoire, effectivement, bon, change en fonction des époques. Les mythes sont également contribue à construire notre histoire. Mais l'ouvrage sur lequel, bon, maintenant j'ai envie de me pencher, bien, il s'intéresse aux controverses sur les programmes d'histoire du Québec. Si vous suivez l'actualité politique depuis quelques années, peut-être que vous vous souvenez des dernières controverses qu'il y a eu sur le programme d'histoire. Si vous suivez l'actualité depuis de très nombreuses années, vous allez probablement vous souvenir même de plusieurs controverses qu'il y a eu sur le sujet dans les années 1970, 1990 et dans les années 2000. Cet ouvrage, eh bien, c'est Genèse et legs des controverses liées au programme d'histoire du Québec 1961-2013 du professeur Olivier Lemieux, qui est professeur en administration et politique de l'éducation à l'Université du Québec à Rimouski. Sur quoi est-ce que ça se penche? Comme je mentionnais, on se penche sur les controverses dans les programmes d'histoire, mais aussi en fait sur l'élaboration des programmes d'histoire, parce qu'il n'y a pas nécessairement toujours des controverses. L'historien, en fait, Olivier Lemieux, utilise pas mal toujours la même méthode. Il nous parle des consultations, il nous parle de l'élaboration du programme et il nous parle des réactions parfois violentes que peuvent avoir les gens à l'implantation de ces programmes. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit à quel point, des fois, le jeu politique des fonctionnaires et les décisions de petite politique peuvent avoir un impact quand même assez significatif. Des fois, c'est pas nécessairement ce qui est le mieux qui va être fait, mais c'est ce qui, bon, émane de ceux qui ont le bras le plus long qui va être fait. N'empêche, la plupart du temps, il y a quand même une volonté de faire le mieux. L'ouvrage voyage commence avec le rappeur Parent. Dans les années 1960, le recteur de l'Université Laval, Monseigneur Parent, va mener une grande commission d'enquête sur l'état de l'éducation au Québec. Il va avoir plusieurs recommandations. Il est notamment à l'origine de la création des polyvalentes des écoles secondaires. Avant, on avait les collèges classiques pour les gens fortunés et un système d'école commerciale un petit peu moins bien vu pour les gens moins fortunés. Le rapport Parent va notamment inviter à élargir l'accès à l'éducation au secondaire. Et du côté du programme d'histoire, le rapport Parent, est quand même assez succinct, mais il va dire ceci. Il faut que le programme soit le même pour les anglophones et les francophones, et il faut que ce programme mette l'accent sur la méthode historique plutôt que sur le passé lui-même. Donc, c'est des revendications qui sont assez, avant-gardistes, certains diraient, décalées de leur époque, d'autres diraient, puisque on est face à l'époque de la montée du nationalisme. Et finalement, le programme qui va être implanté, c'est un programme qui met surtout de l'avant l'histoire nationale, politique, un petit peu sociale, qui est événementiel. C'est un programme qui est l'initiative de l'historien Denis Vaugeois, alors jeune fonctionnaire. Et le programme va être assez bien accueilli par les professeurs d'histoire qui l'adopte tout spontanément. Et dans l'ombre travaille Bruno Deshaies sur un programme qui serait basé sur le rapport Parent, programme qui va être rendu public en 1970, et le programme va rapidement être dénoncé fortement puisqu'il est jugé bonententiste en voulant avoir le même programme pour la communauté anglophone et la communauté francophone. Eh bien, forcément, on met peut-être pas l'accent sur les mêmes choses dans une époque où la tension est à son maximum. On rappelle que c'est en octobre 1970 que va avoir lieu la fameuse crise d'octobre, il y a une montée effectivement du nationalisme. Et le premier ministre Bourassa, pour tenter de se dépêtrer de cette crise, va décider de rendre l'histoire nationale facultative, mais ça va en fait davantage envenimer les choses. Et finalement, il va falloir attendre quelques années pour que les choses se calment et qu'on arrive avec un nouveau programme en 1982. Qui va remettre de l'avant la trame narrative. Il va être différent chez les anglophones et les francophones. Ça va être de l'histoire politique avec un petit peu d'histoire sociale. On met de l'avant les grands moments de l'histoire politique du Québec. À ce qu'on dit, effectivement, ce programme émanerait principalement des pressions faites par la Société des professeurs d'histoire du Québec. C'est toujours intéressant de voir après coup le lobbyisme fait par des associations et à quel point il peut avoir une influence ou pas sur des politiques publiques. Puis, un nouveau débat au début des années 1990, il va y avoir un comité présidé par l'historien Jacques Lacourcière qui nous a quittés il y a peu. Et ce comité va recommander ouvrir l'histoire nationale du Québec à deux choses, principalement aux Autochtones. Il devrait avoir plus de place. Il va également recommander de mieux mettre en relation ce qui se passe au Québec avec ce qui se passe dans le reste des sociétés occidentales. Donc, il va y avoir une refonte du programme d'histoire. Et au début, effectivement, des années 2000, on va se tourner vers Jocelyn Letourneau et Christian Laville pour refondre le programme d'histoire. Et leur objectif, c'est un objectif de vivre ensemble. Ils ne sont pas dans une perspective d'histoire nationale, ils sont plutôt dans une perspective d'histoire et d'éducation à la citoyenneté. On se rappelle, on est au lendemain du référendum de 1995, il y a des fractures sociales qui se sont tranquillement installées. Comment amener effectivement chaque personne à se sentir citoyen au même titre, à avoir un certain sentiment d'appartenance pour le Québec, à participer politiquement. Et donc, il y a cette dimension-là d'éducation à la citoyenneté qui vient se greffer à l'histoire. Et ça va effectivement être jugé assez sévèrement des deux côtés. D'une part, bon, les communautés culturelles vont dénoncer un programme qui ne leur donne pas assez de place, qui ne les met pas assez de l'avant. Et d'autre part, ben, les Canadiens français vont dénoncer un programme qui, bon, présente la conquête comme un simple changement de régime, qui gomme un peu les drames nationaux qu'ils ont vécus. Donc, des fois, en tentant effectivement de faire un compromis, on insatisfait un petit peu les deux. Et donc, ça va amener effectivement bon, à refondre à nouveau le programme d'histoire qui, en 2013, va devenir le programme d'histoire Québec-Canada. On retourne à ce qu'il était avant. On évacue la dimension d'éducation à la citoyenneté. On retourne à la trame chronologique plutôt qu'avoir une trame, plutôt thématique. Et on va étendre le cours sur 2 ans. On va faire effectivement, grosso modo, de la, des origines jusqu'à peu près aux patriotes, si je ne m'abuse, pour le premier cours en secondaire 3 et bon, des patriotes jusqu'à aujourd'hui en secondaire 4. Donc, un ouvrage qui nous permet d'en apprendre plus sur la manière dont on enseigne l'histoire, ce qui a suscité effectivement des débats sur ce qui bon, a mis des gens en rogne et sur bon, le lobby pour que certaines choses soient enseignées ou que certaines choses soient enseignées d'une certaine manière au cours des 60 dernières années, je dirais même plus, de 1961 à 2013. Ça s'appelle « Genèse et legs des controverses liées au programme d'histoire du Québec » et 1961-2013, ça a été publié par Olivier Lemieux aux presses de l'Université aux presses de l'Université Laval. Voyons qu'est-ce que je dis. Donc, juste ici. Et sur ce, on s'en va en musique avec Le Tour de l'île de Félix Leclerc dans une interprétation de Carquois. Et on vous revient juste après.
Mais maison de bois, maison de pierre, clocher pointu, et dans les fonds des pâturages de silence, des enfants blancs nourris d'azur comme les anges.
Salut tout le monde, ici Philippe Braque et vous vous apprêtez à écouter un ID de Philippe Braque sur Chiz.
Toujours sur les ondes de Chiz 94.3, comme vient de nous le rappeler Philippe Braque. Vous écoutez Chérie J'arrive en compagnie d'Alex Tremblay, La Marche, en remplacement de Félix Duchesne. Et aujourd'hui, comme je vous le mentionnais, on jase de livres, on jase d'histoire, on jase de la fête de la reine, de la fête de dollars et on jase également de la journée nationale des patriotes. D'ailleurs, je vous invite à aller faire un tour sur le musée virtuel d'histoire politique si vous voulez en savoir plus sur l'histoire des patriotes et cette journée. C'est l'ancien député Dave Turcotte qui est à l'origine de ce musée fort sympathique qui permet d'en apprendre plus sur notre histoire politique. Si je ne m'abuse, l'adresse, c'est Politique Québec ou quelque chose comme ça. Oui, politiquequebec.com et il y a une section sur les patriotes. Donc, allez y jeter un tour, ça vaut la peine. Et pour terminer, j'avais envie de vous parler d'un dernier ouvrage qui porte sur l'évolution, effectivement, de la pensée des intellectuels au Québec. Parce que, comme on l'a vu, bon, l'histoire change, les mentalités changent. On est passé de la reine à dollars aux patriotes au Québec. Et ça, on le voit également, effectivement, dans la façon dont on conçoit l'éducation. Olivier Lemieux, Jean-François Cardin et Denis Simard ont entrepris depuis quelques années de explorer la pensée éducative des intellectuels au Québec. Ils ont fait plusieurs ouvrages sur la question qui explorent chaque fois une génération, puisqu'ils trouvent intéressant effectivement de voir comment des gens qui ont vécu ensemble à la même époque ont pu effectivement concevoir l'éducation et voir ça. Donc, ils en avaient fait un sur la génération 1900-1915, un autre sur la génération 1915-1930. Et là, ils reculent encore dans le temps en nous proposant d'explorer la génération 1850-1900. Ce qu'ils veulent dire par là, ce sont les gens qui sont nés entre 1850 et 1900. Et donc, dans certains cas, même dans plusieurs cas, ils ont principalement été actifs au 20e siècle. Donc, encore une fois, un ouvrage collectif qui nous propose d'explorer différentes figures. On explore notamment, Joséphine Marchand d'Endurant, fille de l'ancien premier ministre Félix-Gabriel Marchand, une de nos premières journalistes au Québec et une des premières militantes féministes au Québec. Donc, c'est assez intéressant. Le texte que Marie Lavigne et Michel Stanton-Jean nous livrent sur elle permet effectivement de voir à quel point sa pensée, effectivement, de l'éducation est indissociable de sa pensée féministe. Pour elle, si on veut que le statut des femmes s'améliore, ça doit passer par l'éducation, que ce soit de façon formelle, via effectivement des écoles, ou de façon informelle, via des lieux de sociabilité, via les lectures. Et donc, tout au long de sa vie, elle va militer pour l'œuvre des livres gratuits, développer le goût de la lecture. Elle va également créer un journal, Le Coin du Feu, pour éduquer effectivement ses consoeurs à la chose politique également, à la chose littéraire et à l'actualité. Donc, un chouette texte qui nous permet d'en apprendre plus sur cette femme. Si vous voulez en apprendre plus sur elle, Marie Lavigne et Michel Stanton-Jean ont publié récemment un ouvrage sur Joséphine Marchand et Raoul d'Endurant aux éditions du Boréal sur l'histoire de ce couple assez intéressante. Autre texte, cette fois signé par Dominique Morin et Mélanie Bédard sur Léon Gérin, sociologue qui va beaucoup s'intéresser aux habitants du Canada français et qui à qui on doit notamment le roman Jean Rivard, Le Défricheur, un roman dans lequel on voit que le personnage réussit effectivement à assez bien s'en sortir en tant que colon grâce à son éducation. Et c'est également l'idée qu'a Léon Gérin, Léon Gérin, non Léon Gérin, que si on veut émanciper la race canadienne-française, on est vraiment effectivement dans ce discours à l'époque, qu'il faut passer par l'éducation, qu'il faut également renverser les préjugés qu'ont les opposants face à l'instruction obligatoire. Parce qu'on l'oublie aujourd'hui, ça semble aller de soi que l'instruction obligatoire, c'est une bonne chose. Mais au 19e siècle, il y a eu ce qu'on a appelé la guerre des étais noirs. À un moment, il y a eu certaines personnes qui étaient contre l'instruction obligatoire. Faut se replacer dans le contexte. On est dans un Canada français qui est principalement rural. Où le sentiment, effectivement, d'avoir besoin de littérature, de mathématiques, de sciences et d'histoire est peut-être pas très, très fort, notamment chez les cultivateurs canadiens français. Pourquoi est-ce que j'enverrais mon fils étudier ces choses alors que, moi, j'ai les foins à faire en septembre et que j'ai besoin de ses bras et que j'ai besoin également, de son aide pour m'aider sur la ferme, etc. Et en plus, on va me demander de payer pour développer ces écoles qui vont m'enlever ma famille qui est ma principale main-d'œuvre pour exploiter mon exploitation agricole. Ça va amener effectivement plusieurs fermiers canadiens-français à vouloir effectivement lutter contre l'instruction obligatoire parce que c'est des coûts, c'est... ça s'impose effectivement contre la structure familiale de l'époque. Et donc, Léon Gérin va nous dire qu'il faut renverser les préjugés des opposants à l'instruction obligatoire. On explore également la pensée éducative de certains religieux assez influents de l'époque, notamment Lionel Groulx, dont on a parlé tout à l'heure sous la plume de Charles-Philippe Courtois, et Joseph Papin-Archambault, qui est un jésuite, sous la plume d'Olivier Lemieux. Le premier croit qu'il faut actualiser l'enseignement au Canada français fait pour favoriser l'émancipation. On le voit, hein, ça revient souvent. Hein. Si on veut s'émanciper en tant que peuple, si on veut aller plus loin, il faut favoriser l'éducation. Et c'est encore un discours qu'on a aujourd'hui. L'éducation, effectivement, bon, permet d'aller plus loin. Pour Papin Archambault, bon, il voit deux ennemis à l'émancipation de la race canadienne française. L'athéisme et l'individualisme. Et il va vraiment tenter de développer l'éducation des jeunes élites en s'intéressant principalement aux étudiants, à la classe bourgeoise, à la classe ouvrière, mais va délaisser un petit peu la classe agricole. Enfin, j'ai envie de vous glisser un mot rapidement, puisque je vois que le temps file, sur le frère Marie-Victorin. Marie-Victorin, bon, fondateur du Jardin botanique de Montréal, également, bon, l'auteur de La Flore Laurentienne, célèbre ouvrage qui va nous permettre de mieux connaître notre nature. C'était aussi un enseignant, parce qu'on l'oublie, mais c'était un frère des écoles chrétiennes, si je ne m'abuse. Mais qu'à cela ne tienne, il était dans une communauté enseignante de religieux. Et il va, même tranquillement, via ses actions en dehors de sa communauté, institutionnaliser, bon, sa pensée éducative. Lorsqu'il crée, bon, le jardin botanique, il le fait dans cette perspective-là. Lorsqu'il crée également, bon, lorsqu'il rédige sa flore laurentienne, il le fait dans cette perspective-là. Il veut que les Canadiens français s'émancipent de leur ignorance de la nature, et il a également une perspective assez nouvelle sur l'éducation, parce qu'il pense que il faut connaître de manière expérientielle les choses. Donc, il va amener beaucoup de jeunes à dire ben, « allez en nature, allez découvrir cette nature, ne l'étudiez pas que dans les classes, dans les livres ». Il va également avoir un discours que, bon, aujourd'hui, on pourrait presque voir comme environnemental, de soigner cette nature et de résister à une vision individualiste et marchande de l'université, donc de vraiment avoir une volonté, bon, de mieux connaître cette nature. Et c'est ce qui va mener, bon, notamment à la formation de plusieurs scientifiques importants pour la suite et à une belle ouverture sur le monde de plusieurs Canadiens français. Il va y contribuer. Toutes ces choses, on les apprend dans La pensée éducative et les intellectuels au Québec, les intellectuels nés entre 1850 et 1900. Ouvrage publié sous la direction d'Olivier Lemieux, Jean-François Cardin et Denis Simard. Pour terminer, j'ai envie de vous envoyer en musique avec une artiste que j'aime beaucoup et qui sera à Québec prochainement, le 16 juin. Plus précisément, il sera à l'Impérial Belle sur Saint-Joseph. Il s'agit de Clara Luciani qui nous offre à l'instant le reste. Hop là, et voilà.
Allongé sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano une mélodie. Expire dans un écho, j'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse les souvenirs émus de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. 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 Je te sens au loin, chasser mon souvenir. Bientôt mourir, reste mon pauvre cœur qui a tout inventé. Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché, je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Perdu sous ton pouce et la peau de ton dos.
reste amoureuse d'une idée qui s'éteint, figée à jamais. Dans un miroir sans teint, d'où je te regarde, t'en sortir à merveille. Épier ton bonheur, me le rend moins cruel. Reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse.
C'était Clara Luciani et sa chanson Le Reste, je rappelle, qu'elle sera en spectacle le 16 juin prochain pour à l'Impérial Belle pour ceux qui voudraient l'entendre. Et sur ce, c'est déjà la fin. On s'en va en conclusion à l'instant. Et donc, ça a été un plaisir d'être avec vous pour cette fête de la Reine, cette fête de l'art et cette fête nationale des Patriotes. On a eu l'occasion aujourd'hui de discuter de l'origine de ces fêtes et de leur évolution et également de livres. Je vous rappelle les titres. Henry Daniel Tilk, La vie d'un peintre royal méconnu de Patrick White, publié aux presses de l'Université Laval. Un ouvrage qui vous permettra d'en apprendre plus sur un peintre du 19e siècle qui gagnerait à être plus connu. La nation qui n'allait pas de soi, la mythologie politique de la vulnérabilité du Québec, du sociologue Alexis Tétrault, de VLB, publié chez VLB Éditeur, un ouvrage qui permet d'en savoir, qui offre un regard assez intéressant sur l'évolution du Québec et le fait que lorsqu'on se sent plus vulnérable, on a plus tendance à vouloir effectivement mettre de l'avant notre culture et la protéger. Je me souviens, j'imagine, essai historique et littéraire sur la culture québécoise, sous la direction d'Anne Comartin, Julien Goyette, Karine Hébert et Martine-Emmanuel Lapointe, un ouvrage publié aux presses de l'Université de Montréal qui réfléchit sur les mythes, les emblèmes et les lieux communs de l'imaginaire collectif québécois. Si vous voulez en savoir plus sur la rivalité Québec-Montréal, c'est le livre à lire. Genèse et legs, des controverses liées au programme d'histoire du Québec 1961-2013 du professeur Olivier Lemieux, publié aux presses de l'Université Laval, un ouvrage qui permet de réfléchir sur l'évolution des programmes d'histoire au Québec et d'en savoir plus sur la question. Et enfin, le dernier ouvrage, également d'Olivier Lemieux, mais aussi de Jean-François Cardin et Denis Simard, La pensée éducative et des intellectuels au Québec, les intellectuels nés entre 1850 et 1900, toujours aux presses de l'Université Laval, un ouvrage qui permet de réfléchir sur la pensée éducative de cette génération. Et sur ce, c'est déjà la fin. On vous laisse et on se retrouve cette semaine, enfin, pas moi en tant que tel, mais d'autres animateurs pour la suite de Chérie, j'arrive.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Chiz pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma.